Chapitre 16. En le voyant passer, le premier mouvement de Turlure fut de ceindre son écharpe, de courir dans la rue et de lui sauter au collet. « Au nom de la loi, je vous arrête !» Heureusement, il n'était pas l'homme du premier mouvement, mais, au contraire, celui des scies, des quarts. Et puis, d'autre part, il n'avait pas son écharpe sous la main. Le numéro 2, celle des besognes ordinaires, était à la mairie, et le numéro 1, celle des cérémonies officielles, serré dans un des tiroirs de l'armoire de Madame Turlure, avec ses bijoux, sa pièce et son bouquet de mariage. Il dut donc résister à cet entraînement et reconnaître que cette arrestation ne serait peut-être pas tout à fait dans l'esprit du code d'instruction criminelle. Quel malheur qu'au lieu d'être maire, il ne fût pas juge d'instruction. Si la déception fut vive, elle n'alla pas cependant jusqu'au découragement. Tout n'était pas fini. Puisque la femme n'accompagnait pas le mari, il pouvait même y avoir quelque chose de bon à ce qu'elle fût seule. Cela permettait de la faire parler, de lui poser quelques questions à droite, de tâter le terrain sans rien compromettre. Comme il cherchait la forme à donner à ses questions, un bruit de voiture légère, arrivant grand train, appela son attention et le ramena sur le pas de sa porte. À demi renversé dans une Victoria à deux chevaux, il aperçut Rosa Mialou en élégante toilette de voyage, et tout de suite l'idée lui vint qu'elle se rendait à la gare pour rejoindre la Vaupalière. Une malle placée à côté du cocher confirma cette supposition. En passant devant la pharmacie, elle adressa une inclinaison de tête à Turlure, qui répondit par le plus aimable, le plus joyeux salut. « Bon voyage, madame, tous mes souhaits !» Il respira soulagé. Donc le notaire ne filait pas sur la Belgique. Il s'en allait tout simplement faire la fête avec sa maîtresse, il reviendrait le lendemain, le surlendemain, peu importait le jour. Quelle chance de ne lui avoir pas mis la main au collet! Qu'auraient dit ces messieurs du parquet? Et il restait sur la porte à se féliciter de sa prudence quand passa la cuisinière de la Vaupalière. Il l'arrêta. « Bonjour, ma fille !»« Bonjour, monsieur le maire !»« Comment va votre camarade »« C'est-il de divine que vous voulez parler ?»« Oui, divine !»« Ben, merci pour elle, monsieur le maire !» Comment va-t-elle ce matin? Ce matin? Oui, ce matin. Elle va et ne va pas. Est-elle mieux? Non. Plus mal? Non. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Son état. Son état, vous le savez mieux que moi. Sans doute, mais de votre côté, vous avez bien une idée? Une idée, mais... Vous l'avez vue ce matin, elle vous a parlé? Elle s'est peut-être plainte? Ah, se plaint toujours! C'est qu'elle est malade. Pour sûr qu'elle est malade, et c'est bien malheureux d'être malade comme ça. Sans doute, c'est très malheureux. Vous devriez bien la guérir. Je ne demande que ça, mais avant tout, il faut que je sache ce qu'elle a, et je ne le sais pas. Vous ne le savez point? Non. C'est-il possible? Je cherche, mais j'aurai besoin d'être éclairé. Ainsi, vous qui vivez avec elle, qui la voyez tous les jours, vous pourriez me donner des renseignements très utiles. Vous croyez ça? Certainement. Elle parut réfléchir un moment en regardant Turlure d'une façon craintive, comme si elle se demandait s'il n'y avait pas quelque danger pour elle à répondre à ses questions. Enfin, elle se décida. Je vais vous dire la chose, m'idée quoi? Soyez sûr que cela peut lui rendre service. C'est une bonne fille qui a du cœur à l'ouvrage, trop de cœur. Ah, c'est une idée. Pourquoi trop de cœur? Parce qu'elle n'a pas la force. C'est pas une fille forte comme mes. Ça, c'est vrai. Vous êtes une fille forte, vous. Ça, oui, on peut le dire. Du temps du défunt monsieur Courteheuse, j'étais seule à la maison et je faisais tout. La cuisine, les appartements... Le service de la table, tout quoi. Et je n'étais pas malade. J'ai-t-il jamais été malade? Je suis-t-il jamais venu vous demander deux sous de médicaments? Vous pouvez le dire. Maintenant, nous voilà deux pour l'ouvrage et divine est malade. Qu'est-ce que ça prouve? Je vous le demande. Moi aussi, je vous le demande. Ça prouve qu'elle n'est pas forte. Et la preuve, c'est que c'est toujours le samedi et le dimanche qu'elle est plus malade. Pourquoi ces jours-là? Pourquoi pas d'autres? Parce que le samedi est le lendemain du vendredi, et que, comme le vendredi, monsieur est à Rouen toute la journée et que madame est sortie, Divine en profite pour faire en grand le ménage de leur chambre, un vendredi celle de monsieur, l'autre celle de madame. Alors le samedi, elle a les bras et les jambes cassés, et sauf votre respect, elle vomit. Le ménage de ces chambres est donc bien pénible. Quand je le faisais, mais j'y pensais seulement pas. C'est vrai de dire tout de même qu'en ce temps-là, il n'y avait pas les tentures sur les murs, ni les grands rideaux, ni les baldaquins qu'on a posés depuis, qui donnent du travail. Parce que Divine, vous savez, n'est pas une fille à flatter les meubles avec un plumeau. Ah non, elle les bat, elle les frotte, je ne vous dis que ça. Et même plus qu'elle ne peut, puisque c'est toujours le lendemain qu'elle est malade. Cette coïncidence de jour, que Divine avait déjà indiquée d'ailleurs, ne pouvait pas ne pas frapper Turlure. Évidemment, il y avait là quelque chose de caractéristique qui devait être examiné sous plusieurs points de vue, et avec d'autant plus de soin que pour lui, la conclusion de la cuisinière ne s'imposait pas. Que Divine fût plus malade le samedi que les autres jours, il y avait là un fait qui paraissait certain. Mais que sa maladie fût causée par la faiblesse était une explication qui manquait peut-être de fond. Pas si faible que ça, cette femme de chambre. Votre idée a peut-être du bon, dit-il d'un ton encourageant. Dame ! Seulement, il faudrait savoir si elle ne mange pas le vendredi des choses qui peuvent causer ses indispositions du samedi. Elle mange ce que nous mangeons, ni plus ni moins, et je ne lui fais pas une cuisine à part. Elle boit ce que nous buvons. Elle est malade, moi pas. Elle mange peut-être plus que vous. Elle haussa les épaules. Justement, c'est le contraire. Elle ne mange quasiment pas au souper le vendredi, tant elle est fatiguée, elle n'a que soif. Que boit-elle? Comme mais, du cidre donc. C'est monsieur Gibourdel qui vous le vend? Oui, et c'est celui que nous buvons tous, monsieur, madame, nous. Il se peut que des aliments bons pour vous soient mauvais pour elle. C'est de la nourriture que vous voulez parler? Eh bien, la nourriture n'est pas toujours la même le vendredi, tantôt une chose, tantôt une autre, et le samedi, la maladie est toujours la même. C'était une raison, ça? Assurément. Et puis, ne pensez pas que je vous raconte ça pour nuire à Divine, qui est une bonne fille. Qu'est-ce que ça vous fait qu'elle soit forte ou pas forte, puisqu'elle n'est pas à votre service? Si elle est malade, ça n'est pas de rien. Moi, je dis que c'est de fatigue. Ça a toujours été mon idée. Et comme je le disais à Divine, et qu'elle ne voulait pas me croire, voilà ce que j'ai fait. Touche à rien du ménage un vendredi, que j'y ai dit. Elle m'a écouté. Nous nous sommes baladés, et le samedi, elle n'a pas été malade. C'est-il la fatigue, ou c'est-il pas la fatigue? Malgré tout, Turlure ne pouvait pas partager cette conviction, si nettement affirmée cependant, et qui paraissait reposer sur un fait certain. Mais il ne jugea pas à propos de la contester. « Il semble bien que ce soit la fatigue, dit-il. Pardi !» Au point où en étaient les choses, il trouvait bon de laisser cette explication se répandre. Elle ne provoquait ni les soupçons ni les inquiétudes et lui donnait le temps de continuer son enquête sans qu'on pût penser à se demander de quoi il se mêlait et quel but il poursuivait. Une fille indisposée était venue le consulter. Il avait voulu savoir la cause de son indisposition, rien de plus naturel. « Puisqu'il en est ainsi, dit-il, je vais vous donner quelque chose qui lui fera du bien. » Passant derrière son comptoir, il versa dans une petite fiole différents liquides qu'il pesa scrupuleusement. Puis, sur cette fiole, il colla l'étiquette « potion » y inscrivit son numéro et la donna à la cuisinière. « Elle vous paiera ça en passant, » dit celle-ci qui ne tenait pas à avancer quelques sous pour sa camarade. Déjà, la constatation de l'arsenite de cuivre dans les vomissements de Divine avait fait admettre par Turlure la possibilité d'un empoisonnement accidentel au lieu de l'empoisonnement criminel auquel il avait cru tout d'abord. Les renseignements que venait de lui donner la cuisinière ne pouvaient que le ramener au doute qui s'était alors présenté à son esprit. Si la découverte du verre de Chyle paraissait extraordinaire et renversante, comme il l'avait avoué à sa femme, les conditions dans lesquelles se présentaient ou ne se présentaient pas les indispositions de cette fille méritaient une sérieuse attention, Et si l'explication tirée de la fatigue ne disait rien, les faits eux-mêmes étaient gros de questions. Pourquoi y avait-il malaise le samedi quand elle avait travaillé le vendredi toute la journée dans la chambre de son maître ou de sa maîtresse? Et pourquoi ces malaises ne se produisaient-ils pas quand elle ne se livrait pas à ce travail? Ce travail, ou plutôt les conditions et le lieu dans lequel il se pratiquait, avait donc une influence déterminante sur ces malaises. C'était ce que la logique répondait, et une fois cette voie ouverte, elle disait aussi que si l'on voulait aller jusqu'au bout, la première chose à faire était de rechercher quelles étaient ses conditions de travail et de voir les pièces mêmes, les meubles qui servaient à l'appartement et à l'usage de M. et de Mme Lavaux-Palière. Alors seulement, on aurait des éléments pour se prononcer en connaissance de cause.